Je vais essayer de répondre à la question qu'on m'a posée, qui était la même que la vôtre, du point de vue du Léa Ampère. Donc, le Léa Ampère, c'est un Léa qui est à Lyon, au cœur de la presqu'île. On a 5 classes de chaque niveau, donc 20 classes, un peu moins de 600 élèves. Et on a fait partie des 12 premiers Léa en 2011. Voilà. Donc ça s'est passé assez rapidement. On a eu la chercheuse qui suivait notre groupe de recherche, qui voulait à tout prix qu'on s'implique, une chef d'établissement qui était tout à fait partante. On a répondu à l'appel des Léa et on a fait partie des 11 premiers Léa. On a associé donc une recherche et un établissement. Et en préparant, Luc me demandait quelle est la différence en fait entre la recherche qui a été à l'origine du Léa et le Léa maintenant établissement. Donc j'ai voulu faire un focus entre la recherche Léa et l'établissement Léa. Qu'est-ce que c'est ? Donc on a eu quand même trois. On a commencé. On avait proposé le Léa collège avec une recherche Sésame Algèbre qui portait sur le collège. Et on a demandé à évoluer assez rapidement parce que, en fait, vous allez voir, on est plusieurs recherches associées et on a voulu impliquer aussi le lycée. En fait, on partage les mêmes locaux, on est au même endroit à Lyon. Donc, ce n'est pas les mêmes établissements, il y a des chefs d'établissement différents, mais c'est les mêmes locaux, la même cantine, par exemple, la même intendance. Et on a décidé donc d'évoluer et de demander à ce que ce soit le collège et le lycée. Du coup, c'est devenu le Léa Ampère complet. Tout l'établissement est devenu Léa. Et on a fait partie du renouvellement, on a demandé un renouvellement parce qu'on a voulu, on était parti d'un travail sur nos matières, maths et physique, et on a voulu aussi continuer sur l'évaluation. Alors, donc en fait, au niveau du Léa, dans l'établissement, on est trois professeurs à être réellement très impliqués, donc Jacques Vince qui est en physique au lycée Ampère, moi qui suis au collège Ampère en mathématiques, Claire qui est aussi au collège Ampère en mathématiques. Et vous voyez, si vous regardez, on était impliqués à la fois dans la recherche Sésame et à la fois dans l'établissement, bien avant que le Léa ne débute. Donc les recherches Sésame, c'est une chercheuse. Dans les trois cas, on a trois recherches Sésame qui travaillent collaborativement. Une recherche qui est sur la physique, dont la chercheuse est André Thiberger. Une recherche de mathématiques, avec une chercheuse qui est Sylvie Copé. Et une recherche qu'on appelle plurimotive, qui cherche à améliorer la motivation des élèves, dont la chercheuse est Pascale Montpied. Et on dépend du laboratoire Icare, qui est juste à côté de l'IFE. Alors, notre objectif, c'est de fournir des ressources, de produire collaborativement des ressources. Et ces ressources, on les met en ligne sur des sites. Donc le site Pégase pour la physique, son clone, qui est le site Pégame pour les mathématiques. En fait, la physique a commencé à impulser ces groupes de recherche. Et les mathématiques sont arrivées 2 ou 3 ans après et ont prolongé ce travail qui se faisait en physique. Alors, c'est un groupe de recherche, c'est une chercheuse et c'est des enseignants. Des enseignants différents qui viennent d'établissements différents, qui ont des questions différentes, qui ont des pratiques différentes dans les classes. Mais pour que ça puisse fonctionner, on s'est appuyé sur des principes. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, et là pour ça on a vraiment copié la physique qui avait déjà fait ça avant nous, c'est qu'on a mis en place des principes sur lesquels on s'appuyait pour faire nos activités. Alors je vais vous donner les principes de mathématiques pour que vous voyez ce que c'est à peu près. Notre premier principe, c'est de proposer des problèmes dans lesquels les outils introduits sont nécessaires. Le deuxième principe, ne pas indiquer de méthode de résolution. Le troisième, favoriser des changements de registre. Le quatrième, travailler les vérifications qui donnent du sens aux notions. Le cinquième, travailler sur les formules pour préparer la notion de fonction. Le sixième, travailler les activités de preuve. Et le septième, justifier les calculs par l'utilisation des règles algébriques clairement explicitées comme telles. Alors, vous vous rendez compte, quand je lis les principes, qu'on se focalise sur notre objet d'étude uniquement sur les derniers. Là, on voit bien que c'est de l'algèbre dont il est question. Parce qu'en fait, on était parti d'une problématique qui était qu'au lycée, les professeurs de lycée trouvaient que les élèves donnaient aucun sens à l'algèbre. Et on avait essayé de produire des activités pour justement donner du sens, pour que ce ne soit pas juste, je prends une lettre et puis je fais 20 exercices de factorisation, 20 autres de développement et puis j'ai fini mon heure. Et je fais ça pendant une semaine et les élèves n'ont pas compris. Donc ça a beaucoup changé depuis, hein, mais c'est vrai qu'au départ c'était un peu ça. Mais quand on écoute les principes, les quatre premiers, c'est vraiment des principes très généraux et qui vont aller sur pratiquement toutes les notions qu'on va avoir à enseigner au collège en tout cas. Donc ce qui est vraiment important, c'est que on a cette référence des principes, elle est explicite, elle est marquée sur le site. C'est la première, quand on va dans le site, dans la partie se former, c'est la première petite page, c'est ça, les principes sur lesquels on s'appuie. Quand on accueille un nouveau professeur dans le groupe, c'est là-dessus qu'on prend du temps. Voilà comment doivent être les activités, elles doivent vraiment être au niveau de ces principes. Donc, c'est partagé par tout le groupe, y compris les autres groupes de recherche. Donc, ça fait quand même un travail interdisciplinaire assez riche là-dessus. Tout, pour continuer dans les ressources, on a aussi fait un parcours magistère, donc, qui est sur le site magistère, un parcours IFE dans la partie mutualisée. Je ne sais plus, j'avais noté, je ne me rappelle plus trop comment c'était. Ah oui. Donc, c'est l'offre de parcours mutualisé. Donc, avec Origine, il faut cliquer Origine IFE et vous avez tous les parcours IFE qui apparaissent. Donc, on en a fait un sur l'entrée possible dans l'algèbre par les programmes de calcul. Voilà. Alors, pardon, j'ai oublié une chose qui est importante quand même, parce que parfois, c'est que le début du Léa a eu lieu en 2011. En 2011, on était à la fin d'un projet qui s'appelait le projet STEAM. Et on allait commencer un nouveau qui était le projet AssistMe. Donc le projet STEAM, c'est Science Teacher Education Advanced Method. C'était un travail sur les démarches d'investigation dans l'enseignement scientifique. Et on faisait un focus sur les pratiques de classe et le travail collaboratif enseignant. Donc nous, on n'a pas vraiment été énormément touchés par le projet, mais le laboratoire ICARSI, et donc de fait, Sylvie Copé aussi. Et nous, on a accepté pour cette recherche-là une présence dans nos classes pendant 18 séances d'affilée de caméra. Donc tout a été filmé pendant 18 séances. Ça nous a posé comme souci, ben non pas un souci, mais ça nous a obligé à réfléchir à nos contrats didactiques en amont, parce que comme c'était vraiment le début d'année de quatrième et que rien n'est encore réellement en place, on s'est interrogé en équipe sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que rapidement, parce que 18 séances, voilà, pour que rapidement se crée dans la classe et ce contrat partagé avec les élèves. Donc ça, c'est le premier point sur lequel ça nous a bien permis d'avancer. Et le deuxième, c'était qu'on utilisait des calculs rituels en début d'heure, c'est-à-dire on faisait des petites choses qu'on appelait calculs rituels. Et Sylvie, en venant 18 fois d'affilée nous voir dans les cours, à la fin, elle nous a dit « vos calculs rituels, ce n'est pas du tout des calculs rituels ». Le calcul qui est là devant, ça ne va pas du tout. C'est pas ça. Ce qui est rituel, c'est la mise en œuvre, c'est le fait que les élèves cherchent, c'est le fait que les élèves échangent sur leurs procédures, et c'est le fait que derrière, vous avez toujours cette institutionnalisation. Donc, pour ceux qui étaient avec nous en mai, et ben, c'est exactement les mises en train. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi sur qu'est-ce que c'était que ce temps, finalement. On avait déjà fait un article dans le bulletin vert où on avait appelé ça les calculs rituels. Et on en a fait un autre en disant, bah maintenant, c'est la mise en train et voilà ce qu'on met derrière. Donc ça nous a quand même permis de poser de changer un peu et de pouvoir préciser ce qu'on entendait dans cette gestion de classe qu'on avait mis en place. Alors la deuxième recherche, c'est la recherche AssistMe. C'est pas fini AssistMe, il reste encore une année. On est en plein dans l'actualité d'AssistMe parce que demain et après-demain, il y a le colloque AssistMe à Grenoble. AssistMe, c'est Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education. C'est l'étude de l'influence des nouveaux dispositifs d'évaluation formative et sommative sur les pratiques enseignantes et sur les apprentissages lors des démarches d'investigation. Pour AssistMe, on a aussi été filmé, mais c'était beaucoup plus ponctuel, c'est-à-dire qu'on a accepté de participer à une expérimentation, en parallèle avec Grenoble d'ailleurs. Et donc, on a été filmé en sixième sur la mise en place d'une séance d'évaluation formative. Alors, c'est bien sûr, ça, c'était bien pour la recherche, mais nous, ce qu'on en a tiré, c'est que ça nous a vraiment interrogé sur l'argumentation, comment est-ce qu'on faisait faire de l'argumentation aux élèves, comment est-ce qu'on pouvait leur expliquer que ce qui se passait à un moment T dans la classe était pour eux un moment d'évaluation formative, qu'il y avait du feedback qui se passait dans les deux sens. Ils devaient entendre leurs camarades présenter leur démarche, ça devait pouvoir leur permettre de voir où ils se situaient par rapport à cette démarche. Donc on est vraiment là-dedans et c'est pas fini, on est en plein dedans, quoi. C'est vraiment le... Donc ça, c'était le côté recherche. Le côté établissement, on a un établissement avec des professeurs qui participent à la recherche SESAM, des professeurs qui ne participent pas à la recherche SESAM. Et on a des correspondants. Donc je suis correspondante IFE. Je partage, parce que je partage beaucoup avec Claire Piolti, on travaille beaucoup ensemble, je partage ce rôle avec Claire Piolti. Donc on est relais de l'IFE. Et on est relais de la recherche SESAM, parce qu'on est en plein dedans, et puis d'autres recherches, parce qu'on échange quand même beaucoup avec les autres recherches avec lesquelles Sylvie est en contact. Il y a un autre correspondant, c'est le correspondant IFE, donc c'est Sylvie Copé qui est correspondant IFE. Et en tant que correspondant IFE, elle vient régulièrement au collège, c'est-à-dire que les collègues qui ne sont pas de mathématiques la connaissent, ils savent que c'est la correspondante du Léa. Et elle organise assez régulièrement, je crois qu'on en a fait 3 sur les 5 ans, des présentations à toute l'équipe enseignante du collège en fin d'année. Je pense qu'on est des professeurs incubateurs, c'est-à-dire que je pense qu'au niveau du collège, on est sur notre recherche en mathématiques, on échange avec nos collègues mathématiques, mais ce qui se passe, et ces échanges-là, les autres collègues en profitent aussi d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que parce que le correspondant, en tant que correspondant Léa, je mets sur le site de collège, par exemple, toutes les veilles éducation qui sont vraiment en lien avec nous. Donc, ceux qui veulent aller lire vont le lire. On dépose plein de documents en salle des professeurs. Et je pense que ça, au niveau de la machine à café, il se passe des choses qu'on n'a sûrement pas dans d'autres établissements. Et puis, on a notre porte ouverte. Alors, je vous ai mis tous les gens qui sont venus nous voir. On est une porte ouverte pour la recherche. On a accepté beaucoup d'étudiants dans nos salles. On a accepté des stagiaires. Donc, on est sur la formation initiale. La formation continue, c'est-à-dire on offre les stages du PAF se font au collège. Donc, assez régulièrement, on voit arriver des professeurs d'autres établissements qui viennent pour le stage, notamment pour la mise en train. Donc, ça permet aussi d'en parler... Et puis, donc, on a tous ces gens qui font des thèses et qui nous amènent des choses. Hein, la magnifique frise que vous voyez en haut, c'est parce que Katiane m'a obligée à regarder comment situer les choses les unes à côté des autres. Je me suis dit, maintenant qu'on est dans les frises, allons-y, hein, essayons de poser, de poser ça sur une frise. Et voilà. Alors, je m'y retrouve. Alors, la question qu'on nous avait posée, c'était, dans un moment de changement institutionnel, décrire le rôle du Léa dans ce moment. Donc, il y avait plein de verbes. Et quelles sont les ressources produites dans cette perspective et leurs effets? Alors, moi, il y avait beaucoup de verbes. J'en ai choisi d'autres. Hein. J'ai choisi initier et anticiper. Et pour l'autre branche que vous ne voyez pas encore, j'ai choisi accompagner. Voilà. Donc, je vais m'extraire de la recherche SESAM, c'est-à-dire que le Léa Ampère, il a appuyé sur la recherche SESAM en mathématiques. Mais je pars de mon idée qu'en fait, le Léa Ampère, c'est l'établissement, et je voulais essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé dans cet établissement qui ne se serait peut-être pas passé si on n'avait pas été un Léa, c'est-à-dire si on n'avait pas eu cet échange avec la recherche. Alors, je vais prendre en compte ce qu'on appelle le projet Ampère, ce qu'on a appelé le projet Ampère, qui a commencé début 2013. Et en fait, on n'était pas content de ce qui se passait. Il y avait, c'était juste la loi de la refondation de l'école qui venait d'être votée, donc on était en plein dans les changements. Il y avait on trouvait que, institutionnellement... on nous disait que oui, c'était bon, on pouvait peut-être y aller, changer les choses. Si ça ne nous plaisait pas, on pouvait peut-être essayer. Donc nous, On s'est regroupés, on était 15 professeurs volontaires. Donc 15 professeurs, ça fait à peu près deux équipes complètes pour des classes. Et on a imaginé comment est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans notre collège. Et alors c'est parti tout azimut, hein. On voulait un temps d'accueil le matin, on voulait un temps réflexif le soir. On avait appelé ça ce que j'ai appris, on avait beaucoup copié sur plein de recherches qui étaient un peu partout, hein. Je veux dire, on avait lu un petit peu. On voulait un temps, une pause méridienne qui soit un peu plus réfléchie, avec peut-être du sport, peut-être un travail sur... Enfin, on trouvait que nos élèves qui arrivaient du CM2 en étant autonomes en CM2, on les rendait complètement apathiques en fin de troisième. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Et de toute façon, c'était évident parce que au collège, en sixième, c'était tu restes assis, tu bouges plus. Et donc, on voulait changer ça. Alors on a pris beaucoup d'informations, hein, parce que ça existe partout, enfin pas partout, mais ça existe dans beaucoup d'endroits. Hein. Enfin, je veux dire, donc, on a eu des conférences téléphoniques avec Clisten, on a une association de parents d'élèves de Lyon qui ont leurs enfants dans des écoles d'éducation nouvelle en primaire et qui voulaient un suivi pour le collège, donc ils sont venus nous expliquer ce qu'ils aimeraient, comment... Bon, on a beaucoup rêvé, on a monté un projet qu'on a appelé le collège... bienveillant et... Je ne me rappelle plus déjà. Enfin bref, si, collège exigeant et bienveillant. On était aidés par le CARDI. Le CARDI de Lyon nous a beaucoup aidés. La Ligue de l'enseignement est venue nous voir. Enfin bon, c'était vraiment important pour nous. On a présenté et on nous a refusé un passage en expérimentation parce qu'évidemment, pour pouvoir gagner du temps, pour faire des temps d'accueil et ce que j'ai appris à la fin de la journée, il fallait... accepter de donner du temps sur son enseignement pur, et on nous a refusé le passage en innovation. C'était la rentrée 2014, donc on n'était pas encore dans ce qui se passe maintenant. Bon, donc du coup, rentrée 2014, en septembre 2014, on a changé de chef... Oh, voilà ce que j'ai oublié. Attends, j'aurais dû y penser. J'ai complètement oublié, j'ai dit mon établissement, j'ai dit des professeurs, j'ai dit... Et j'ai oublié le chef d'établissement. On avait une chef d'établissement qui était vraiment très, très volontaire. Tout de suite, hein, en deux jours, elle a accepté de déposer le dépôt de dossier pour les Léa. Elle nous a suivis sur le travail là, de projet qu'on avait fait. Elle était vraiment enthousiaste. Pour un chef d'établissement, ce n'est pas facile d'accueillir des professeurs qui font partie de groupes de recherche, hein. On a des exigences sur des journées ou des demi-journées de libre. On est absent pour aller animer des formations. On est absent pour venir aux journées des Léa. On est absent pour plein de points. Et bon, voilà. Elle disait que ça apportait plus à l'établissement que ce qu'on perdait en temps réel devant élèves. Mais il n'empêche qu'on se rend bien compte que le chef d'établissement, dans ces moments-là, est vraiment très important. Donc nous, on a changé de chef d'établissement. La nouvelle personne qui est arrivée est très bien. Simplement, elle est arrivée avec une équipe qui avait été un peu frustrée quand même que son projet n'ait pas été accepté et qui voulait, qui exigeait d'avoir quelque chose pour l'année qui venait, pas à revenir à un cours normal. Donc il y a eu un grand moment où qu'est-ce que vous acceptez qu'on fasse, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. On n'avait pas de moyens. Donc, on a décidé, dans une classe de sixième, d'essayer d'évaluer par compétences, de mettre en place les conseils d'élèves, parce qu'on était quand même allé voir dans une école primaire ce que c'était que des conseils d'élèves, et voir toute une école, parce que là, c'était toute une école, la toute petite, dans le cinquième, qui fait un conseil d'élèves. C'est quand même impressionnant, tous ces petits gamins qui se passent le bâton de parole, qui répondent à des questions et qui trouvent des solutions... Donc on a décidé de les mettre en place et de faire une plage blanche le jeudi après-midi de 2 heures où il y ait plusieurs professeurs libres et de co-animer sur ce temps-là en travaillant sur des projets. Enfin, je pense que vous voyez où je veux en venir parce que là, voilà, maintenant, en 2016, on va bien. Et on avait aussi décidé de faire des portfolios de classe. Donc ça, c'est la première année. Ça a presque marché, sauf pour l'évaluation parce que on avait quand même un problème avec les professeurs, surtout de sciences, qui avait plusieurs classes mélangées, qui avait des groupes, 2 classes, 3 groupes, et du coup qui se retrouvaient avec des enfants qui étaient soit dans la classe par compétence et d'autres qui avaient des notes. Donc ils ont fait comme ils pouvaient la première année. La deuxième année, on a été un peu plus, on a dit on va faire ça sur deux classes. Donc on a évalué par compétence cette fois-ci dans toutes les matières sur deux classes. Et les professeurs qui étaient un peu réticents, qui avaient un peu de mal la première année, ont même été les premiers à finalement évaluer en sixième et cinquième, alors que personne ne leur demandait de continuer en cinquième. Et une fois qu'ils avaient fait leur grille et qu'ils avaient vu ce que ça donnait, ils ont voulu continuer dans les autres classes. On a fait nos conseils d'élèves. J'ai marqué que sur deux classes mes conseils d'élèves. C'est quelque chose qui a beaucoup pris au collège parce qu'en fait, on a cette heure de vie de classe qui peut vite devenir un défouloir. Et avec le conseil d'élèves, c'est assez magique. Ils s'y tiennent. Ils prennent la parole quand il faut, ils la demandent. Il y a la personne qui distribue ce bâton de parole. Il y a la personne qui... On peut être exclu du conseil, donc on n'a vraiment pas envie, parce que si jamais il y a un truc intéressant et qu'on ait quelque chose à dire dessus, on veut y être. Donc ça a beaucoup été utilisé, notamment en troisième, par les professeurs principaux. On est toujours resté avec nos portfolios de classe. En fait, c'est des blogs, je marque portfolio de classe, parce qu'au début, on voulait essayer de faire quelque chose, mais finalement, c'est un blog. C'était quand même l'idée de travailler pour montrer ce qu'on a fait. Donc, ils prennent essentiellement des photos de ce qu'ils ont fait, et s'ils pensent avoir fait quelque chose de mieux, ils refont une photo pour changer l'ancienne, pour montrer une progression. Et dans toutes les sixièmes, on a fait ce fameux atelier de 2 heures, trois classes, les lundis et jeudi après-midi. Voilà ce qu'on a fait sur nos 2 années. Donc, je pense qu'on a un peu quand même initié des évolutions parce que depuis, il y a eu les modifications de... notamment sur l'AP et les EPI. Donc, on a quand même, nous, il y a 2 ans, réfléchi à comment, dans nos programmes, on pouvait trouver des éléments communs et comment, au niveau des projets, on pouvait travailler en restant quand même sur un travail qui nous concernait, donc en mélangeant les matières. L'évaluation par compétences, on avait quand même pas mal réfléchi. J'ai marqué ILO 5 classes parce qu'en fait, je me suis rendu compte que spatialement, dans les classes, si c'était passé quelque chose, au début, il n'y avait qu'une seule classe qui était en ILO depuis 3-4 ans. Et puis, le fait de travailler en groupe, de faire échanger les élèves, il faudrait penser quand même à... On est en train de changer le contenu des enseignements, mais on ne change pas les structures. Donc, en fait, il faudrait quand même réfléchir à comment faire pour que ce soit facilitant, pour que ce soit... Et puis la mise en train, parce que la mise en train, c'est quelque chose qui est vraiment en place au niveau du collège. Et j'ai rajouté, au niveau du début mars, on a initié un travail avec les professeurs des écoles du secteur, parce qu'on aimerait en fait mettre en cohérence leur temps de rituel. Parce qu'ils ont beaucoup de rituels dans le primaire, ils en font plein. Enfin, du coup, on a échangé beaucoup. Moi, je croyais qu'ils faisaient un rituel le matin, éventuellement un rituel l'après-midi. Mais en fait, à chaque changement, ils font un rituel. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette mise en train, la mettre en place déjà en primaire, sur des points, et comment est-ce qu'on pourrait en faire un outil de prolongement, parce qu'on est quand même dans le même cycle maintenant avec la sixième. Comment est-ce qu'on pourrait prolonger? Donc j'ai replacé les différents changements qu'il y a eu. Donc la loi de refondation de l'école en juillet 2013, la charte des programmes en avril 2014, le nouveau socle en mars 2015, la nouvelle organisation des enseignements avec la demande de travailler avec des AP, des EPI en mai 2015, et puis pour finir les programmes en septembre 2015. Donc vous voyez que nos deux projets ont vraiment accompagné. On était sur ce long temps, parce que finalement, ça a été long. Et en même temps, il y a eu tellement de changements qu'il va falloir intégrer là, maintenant, très vite, en une année, qu'on a pris, en initiant les choses dans le collège, on a pris de l'avance sur cette réflexion-là. Ce qui était quand même assez frustrant, c'est qu'au niveau du collège, jamais personne... autre que ceux de l'équipe, alors on était quand même une quinzaine, mais autre que ceux de l'équipe, n'est venu nous poser des questions sur l'évaluation ou sur ce qu'on faisait en atelier, etc. On était quand même un petit peu à côté, c'était particulier. La fin de l'année dernière, notre chef d'établissement, bientôt, pourquoi c'est bientôt l'heure? Je commençais un quart d'heure après. La fin d'année, donc il y avait les fameuses deux journées où il fallait réfléchir, etc. Donc notre chef d'établissement nous a dit, bah, écoutez, moi ce qui m'intéresserait, c'est que vous présentiez à tout le monde la mise en train en mathématiques, parce qu'elle était allée voir les stagiaires, parce qu'elle était allée discuter avec les nouveaux professeurs, et que ça l'intéressait qu'on présente la mise en train aux autres professeurs. Donc on a fait une présentation qu'on avait déjà fait au printemps de l'innovation, donc on a présenté la mise en train. Et Sylvie Copé est venue, comme on est sur la recherche à SysMe, elle est venue faire une présentation sur l'évaluation. Et le lendemain, notre chef d'établissement a demandé aux collègues de se mettre en atelier et de travailler sur l'évaluation en classe de 6e, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et sur la mise en œuvre de la mise en train dans leur classe, est-ce qu'ils pourraient l'imaginer ou pas. Donc là, on est sur des collègues, toutes matières confondues. Hein. Donc, et là, c'était assez particulier parce qu'elle nous a expliqué, après ces réunions-là, qu'on avait le projet d'établissement à réécrire. Et qu'elle voulait savoir si maintenant on était décidé à s'engager sur un changement au niveau de notre évaluation ou non, et si elle pouvait le mettre dans le nouveau projet d'établissement. Et là, on a eu c'est même pas une majorité, tout le monde a dit que oui, on était d'accord pour passer à de l'évaluation par compétences en sixième l'année prochaine. Donc cette année, on commence une évaluation par compétences en sixième, toute matière. Donc, alors ça tombe bien, il y a dans les deux équipes de l'année dernière, il y a forcément un prof de chaque matière, voire deux. Le problème, c'est que tout a changé. Hein. On était sur l'ancien socle, on était sur l'ancien programme. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Mais c'est vraiment cette idée que ça a diffusé sans que réellement on en parle. C'était le fait que ça se passe dans l'établissement, et que des gens y réfléchissent. Tout ce qui est informel, toutes ces choses informelles. Alors évidemment, je pense, moi je crois qu'on est plusieurs à être dans des recherches collaboratives depuis un moment, qu'on a peut-être une réflexion sur comment on collabore avec les collègues, mais en attendant, ça s'est passé. Et la mise en œuvre de la mise en train, alors ça aussi c'était très amusant, quand j'ai dit à mes sixièmes la semaine dernière, écoutez, prenez vos cahiers, vous écoutez bien parce que c'est une nouvelle façon de faire, je vais vous expliquer ce qu'on va faire toute l'année, c'est la mise en train. Et là il y a un petit qui a levé la main, il fait, ah mais madame, on en a déjà fait plein en français. Et là je me suis dit, waouh. Non seulement ils ont dit que oui, ils allaient le faire, mais oui, ils l'ont mis en place dans les classes. Non, parce que souvent on dit, et puis ouais, c'est pas évident, quoi. Bon, donc il faut qu'on passe de la note à la compétence. Donc je pense que on travaille beaucoup sur le socle et l'évaluation là en ce moment, parce que pour le coup, c'est des vraies discussions, parce qu'il faut qu'on mette en place un référentiel et qu'on soit d'accord entre nous. Il faut aussi qu'on arrive à faire comprendre aux collègues qui ont fait leur première évaluation et qui ont évalué 10 compétences, que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'ils peuvent le faire, mais que ça risque d'être très très long pour eux, et qu'il faut vraiment cibler pour nous au maximum 3 ou 4 compétences, qu'on gardera de toute façon 4 fois plus d'informations que ce qu'on gardait avant avec une note, donc c'est déjà beaucoup trop. Donc voilà, donc je pense que là-dessus on travaille. L'interdisciplinarité, pour les EPI, je pense qu'on avait bien préparé ça au niveau de l'AP, mais je vois aussi l'interdisciplinarité à travailler avec les collègues professeurs des écoles, parce qu'on a ce cycle 3 quand même à faire vivre. Les programmes, c'est compliqué. Moi, j'étais contente. J'étais contente qu'on nous demande d'entrer dans les EPI, qu'on nous demande de travailler autrement. Je pense, enfin, ça c'est juste mon avis, je pense que les programmes n'ont pas été assez... Il n'y a pas assez de choses qui ont été enlevées, quoi. Ils sont encore beaucoup trop denses. Et comme ils sont par cycle maintenant, c'est encore plus compliqué. Nous, au collège, on est 3 professeurs qui restons toujours en poste et on est 6 professeurs de mathématiques en tout. Donc il y en a 3 tous les ans qui arrivent. Donc on a fait un choix de manuel par niveau. Et là, on se retrouve, en fait, on est vraiment embêté parce qu'on ne veut pas que le choix de progression qui est fait chez nous soit un choix d'un éditeur. Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer si on ne fait pas attention. Il faut qu'on arrive à faire vivre ce cycle. On ne sait pas encore comment on va faire, mais c'est compliqué. Et j'ai oublié plein de choses parce que j'aurais pu mettre l'algorithmique qui arrive, qui va nous obliger à travailler aussi vers le haut avec le lycée, parce que voilà, donc plein de choses à accompagner. Je pense qu'on a accompagné. C'est bon ?
Ok, oui. Bah, là, on est pressé par le temps, bien sûr. Il y avait beaucoup de choses à dire.
Oui, j'avais plein de choses.
Tout dire. Mais enfin, on fera un compte-rendu de l'atelier avec l'ensemble de documents que tu as présentés. Est-ce que vous voulez réagir sur ce qui a été dit maintenant ? Tout de suite ? C'est le moment. Puis après, je vous dirai quelques éléments. Je voulais faire une synthèse. Je ne sais pas une synthèse que je ferai, mais quelques éléments pris parmi les éléments de réflexion que vous avez proposés. Mais là, sur ce qu'a dit Sophie, tu voulais...
Non, je voulais juste...
Tu parles plus fort.
Mais... Tu veux un micro ?
Oui.
Oui.
Alors ça, c'est un Léa Ami.
C'est un Léa Ami.
C'est un Léa Ami. Ils ne font pas des mises en train, ils font des flashs.
Ah bon ?
La question flash.
D'accord.
Non, je voulais... Ah oui, pardon. Donc, je, Alberto Aymada, je suis membre du Léa...
Je m'excuse, je te dérange encore. Te lever et te tourner vers la caméra, plutôt. Comme ça, on te verra.
Bon, très bien. Donc, Alberto Aymada, membre du Léa Roger Martin Dugard, donc de l'Académie de Créteil. Je voulais déjà... Enfin, j'étais très agréablement surpris par tout ce que vous avez réussi à mettre en œuvre durant toutes ces années. Je me posais quand même la question de est-ce que pour réussir tout ce que vous avez déjà mis en place, il ne faut pas aussi un terreau favorable ? Je pense, moi qui suis dans l'Académie de Créteil, et je pense à vous avec vos turnover d'équipe assez fréquents, est-ce qu'on pourrait généraliser ça à d'autres types d'établissements ?
Alors ça fait partie de choses que j'étais obligée, parce que j'ai été stressée par
moi.
Qui m'a dit c'est bientôt fini, j'avais encore deux pages, j'ai dit bon d'accord je fais. Alors quand j'ai dit qu'on avait rencontré les professeurs des écoles en février, on les a rencontrés, enfin plusieurs fois depuis, on les a rencontrés, en fait je les ai rencontrés avec une collègue du groupe Sésame, Alexandra, qui est sur un REP+, sur Vau-en-Velin. Mais qui est aussi dans le groupe Sésame. Parce qu'en fait, le groupe Sésame, on a, si vous vous rappelez du début, c'est des professeurs qui viennent d'endroits très différents. Donc on a trois professeurs qui sont sur des REP+ de banlieue lyonnaise. Et on les a rencontrés parce que notre idée, c'était est-ce qu'on peut arriver à travailler en réseau ? C'est-à-dire, nous, on a un certain réseau qui sont dus aux professeurs Sésame. On a un certain réseau d'écoles autour de nous qui sont nos écoles de secteur et nous on en a 6 ou 7 je crois pour le collège Ampère et elle en a 2. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à faire des ressources, à créer des choses qui soient utilisables et chez nous en centre-ville? Bon alors bon, on a 2 écoles REP sur notre secteur mais on reste quand même le centre-ville et les mêmes utilisables en REP+ parce que on pense que c'est pas une question, c'est vraiment une question de ressources. C'est qu'est-ce qu'on va en faire. Ouais.
Ok, une autre intervention, peut-être. Bon, bon, je vous dis ce que j'ai pas pu vraiment prendre connaissance de tout. Puis, en plus, certains écrivent très mal. Donc, c'est très difficile à dire. Mais je m'engage à reprendre ça à tête reposée, à vous proposer une lecture transversale de ce que vous avez fait. Ce que je retiens, c'est les mots forts qui apparaissent. Pour plusieurs Léa, c'est l'idée que les travaux qui sont conduits dans Léa permettent une anticipation de, ensuite des propositions institutionnelles. Par exemple, dans le Léa non, si j'ai bien compris, une question essentielle, c'est la maîtrise de la langue est très travaillée par le Léa. Donc, quand arrive une réforme, ce qui est pris en compte par l'établissement, c'est essentiellement ce qui a déjà été préparé et qui permet à ce moment-là, pour cette partie de la réforme, d'avoir les ressources nécessaires. Ensuite, il y a l'idée d'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme, mais pas uniquement une réforme arrive et donc on va faire en sorte qu'elle s'applique, mais plutôt sous l'angle, je dirais, d'un recul critique qui permette d'identifier les nouveaux besoins liés à cette réforme ou qui permette de nourrir la réflexion sur le changement. C'est ce que j'ai trouvé dans le Léa. Travail adjoint, c'est ça ? Le titre du Léa ?
Travail des proviseurs adjoints.
Travail des proviseurs adjoints, ok. Ou alors nourrir la réflexion sur le changement dans le Léa Ségalin. Ensuite, ce qui ressort le plus, c'est l'articulation entre les deux. dans le Léa Saint-Charles, où est-il l'ami Saint-Charles, les amis, l'idée de faire changer des choses, ça provoque des frottements, c'est-à-dire que c'est jamais un travail isolé qui est fait dans un Léa, mais le travail qui est fait va rencontrer le travail ordinaire, les prescriptions institutionnelles, donc il y a déjà ce frottement-là, et donc le moment de mise en œuvre d'une réforme, c'est un moment particulier de cette relation entre ce qui est produit dans le Léa et ce qui est demandé par l'institution, et qui est anticipé. L'idée aussi dans Léa Tulnav d'une expérimentation maison issue d'un questionnement collectif qui rencontre les objectifs de la réforme, donc cette interaction. Et finalement, il y a un mot, j'ai bien aimé, que je n'avais pas encore entendu, l'idée de conjugaison, qui est votre mot, entre le Léa et l'institution, donc dans le Léa Garcia-Lorca. C'est-à-dire d'un côté, il y a un besoin d'accompagnement individualisé des nouveaux enseignants, de l'autre côté, une refonte de l'éducation prioritaire, et cette rencontre aboutit à un projet qui est porté pas seulement par une équipe, mais par un établissement, qui va s'inscrire dans le projet d'établissement, qui va se traduire par un vote de CA, et donner une évolution d'établissement vers un établissement apprenant. Mais finalement, ce qui me paraît ressortir de ces lectures, c'est plusieurs questions qui sont au cœur de l'interrogation de l'atelier, et qui sont traitées de façon très différente à travers une lecture rapide. C'est d'abord la question des rapports entre chercheurs et enseignants. C'est-à-dire, quel est l'objet de la recherche ? Est-ce que principalement, ça apparaît comme une recherche disons, assez générale ou une recherche qui vient vraiment d'un besoin institutionnel, d'un besoin porté par les enseignants ? La question que tu as évoquée entre c'est quoi le Léa, c'est quoi l'établissement ? Et dans les comptes rendus, on voit que le Léa, enfin, la question portée par l'équipe, c'est la question de l'établissement qui est en gros mobilisée par ça ou non. Et en fait, la question d'un qu'est-ce que pourrait être un établissement apprenant ? Ce que tu décris dans ton projet, c'est-à-dire des questions qui sont portées par le chef d'établissement. Et bon, le Léa a une sorte de ferment, mais vers un établissement ou d'un établissement qui, globalement, fonctionne autour d'un questionnement ressenti comme indispensable, nécessaire. Et puis, ce qui est assez faiblement évoqué dans ce que vous avez écrit, c'est finalement les relations entre l'établissement et ce qu'il y a autour. Ça peut être je sais pas, l'établissement avec des associations, l'établissement avec un cardi, l'établissement avec... Bon, on voit essentiellement dans ce que vous décrivez l'action des acteurs de l'établissement et le seul élément extérieur, si on peut dire, c'est des chercheurs. Et donc ce qu'il y a autour est beaucoup moins visible. Bon, ça doit l'être, hein, mais ça n'apparaît pas directement. Or, c'est dans ce que l'expérience que j'ai vue à travers Ampère, c'est sans doute un élément... qui est fort, hein, la relation structurelle avec l'ESPE, par exemple, dont tu n'as pas parlé, parce que tu n'as pas eu le temps. Bon, voilà, et donc je referai ensuite à...
Moi, je voulais juste terminer, parce que j'ai complètement oublié. On m'a demandé de comment on accompagnait les évolutions institutionnelles, et je me suis posé une autre question. Comment est-ce qu'on compte accompagner les évolutions des professeurs ? Parce qu'en se posant toutes ces questions, en échangeant, en avançant, en se renseignant, en lisant des résultats de recherche, etc., en les mettant en place dans nos classes, je pense que les professeurs sont en train d'acquérir une certaine expertise. Et je me demande comment est-ce qu'on va la valoriser, en fait, cette expertise.
Question. Alors, il reste quelques... il reste 5 minutes. Donc, réponse à cette question ou relance d'autres questions. Catherine ?
On pourrait peut-être essayer d'examiner ce qu'il est possible de faire dans la reconnaissance de ces compétences en termes de personnes ressources. Il y a eu des propositions institutionnelles de reconnaissance par des certifications, par exemple, de formateurs académiques. Est-ce que les Léa ne pourraient pas jouer le rôle d'être effectivement un peu négociateur auprès de la DGESCO, par exemple, sur la capacité de contribuer à ces reconnaissances, hein. Pas du tout d'une manière systématique, puisqu'il y a des épreuves de certification, mais que soit pris en compte, si je puis dire, dans le book du professeur, un professeur qui s'engage, qui travaille à la communication des résultats des innovations, etc., etc. Pour moi, c'est une personne ressource pour une académie, et quelque part, il faudrait que ça puisse... apparaître autrement que sous une forme individuelle dans son CV personnel. Mais il faudrait que l'institution soit à même de prendre en compte ce type d'expérience et de compétences. Donc il y a des portes qui s'ouvrent, peut-être que de l'IFE même, on pourrait imaginer des discussions, des propositions. Je n'ai pas plus de précision que ça, j'y pense en entendant ta question. et en pensant à mes propres collaborateurs de la CARDI qui voilà, sont dans cette dynamique-là et pour qui je cherche des moyens de reconnaître les talents qu'ils ont développés.
Attends. Il y a Serge, puis Yves. Attends, et je voulais pas, j'ai oublié de demander à Catherine, mais
attends,
je venir
fait.
Devant.
J'ai fini mon exposé, je vais leur passer le micro. Je m'entraîne pour les journées de la paix.
Ah, ok.
Comme dirait l'autre, j'ai pas une voix de gymnase, mais je pense quand même, on pourrait peut-être.
Bah, c'est, elle n'est pas de moi, elle est de Chantal Amadesco, mais qui a dû la reprendre. Bon, alors je ne vais pas prendre ma voix de gymnase, mais je vais prendre ma voix de materon à travers un micro. Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de valorisation. Mais moi, peut-être que la question est aussi une question de position. C'est-à-dire qu'on parle de valorisation des professeurs, mais il y a aussi la valorisation des intervenants de recherche. Dans le dispositif vis-à-vis de l'institution. C'est-à-dire que de plus en plus, dans certains LEA qui ont des modalités de travail avec les institutions, le fait de reconnaître que n'étant pas seulement chercheur ou enseignant-chercheur, mais aussi pouvant intervenir dans les formations, de mon point de vue, c'est ce aussi de la valorisation, quelque part, de chaque partenaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours dire... valoriser le travail des professeurs, je signe des deux mains ce que vous disiez, mais je pense que chaque partenaire a une position dans laquelle, vis-à-vis des institutions, il y a une position à pouvoir conquérir si elle n'y est pas, pour le poser. Et puis, c'est pas toujours évident, mais je crois que du point de vue des ressources, c'est-à-dire des productions, je dirais, académiques dans la recherche, co-signer avec nos collègues professeurs et assumer cette position de dire « ce papier, je l'ai écrit avec un tel qui n'a pas une institution labellisée d'adossement », l'assumer très clairement, je pense que c'est aussi un gage de succès et de confiance entre les différents. Et ça, c'est aussi ce que l'on entend, qu'on pourrait entendre par valorisation, c'est-à-dire d'avoir une participation identifiée et pas reconnue, identifiée.
Alors, il y a Yves, quelqu'un d'autre, puis après on fera...
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, parce qu'en ce moment, donc, se remplissent les dossiers pour être conseiller CAFA. C'est pas très heureux hein, comme acronyme, parce qu'il suffirait de mettre un R à la fin et ça serait vraiment pas très beau. Donc, je reçois des demandes de collègues qui soit ont participé à des travaux avec nous, soit ont participé à des stages animés par l'IFE, de manière à avoir des attestations pour remplir leur dossier. Et donc, vous avez raison, il faudrait peut-être que, d'un point de vue institutionnel, on se préoccupe de reconnaître l'implication de ses collègues aux travaux d'Eléa ou autres. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un diplôme IFE qui était en vue, c'est ça Luc ? Ou bien je me suis trompé. Voilà. Donc ou de formation de formateur, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait, organisé par l'IFE, ça pourrait effectivement obtenir ce label que vous réclamez.
Merci. Sophie ? Non. Sur ces questions de reconnaissance, il me semble qu'il y aurait quelque chose aussi à penser du domaine du collectif. On reconnaît les individualités, mais en même temps, les LEA, c'est des implications collectives. Là, j'étais frappé, là, quand on travaille avec Sophie, pour la préparation d'une nouvelle progression sur l'algorithmique. Je dis, bon, on va voir comment vous préparez, mais Sophie dit, mais on prépare ça tous ensemble. À deux, trois, si c'est possible. C'est-à-dire, c'est tout le temps un engagement collectif. Et bon, c'est comme dans les équipes de foot, hein, pour reprendre des parallèles marseillais. Bon, c'est une équipe qui gagne, donc c'est une équipe qui se développe. Et donc, il faudrait trouver des formes de reconnaissance où c'est une équipe qui est distinguée pour son travail, son implication, et ce que ça témoigne pour le développement professionnel de chacun des acteurs de cette équipe. Bon, un dernier petit tour. Donc, j'ai repris des choses très partielles et de certaines fiches. Donc, si vous voulez intervenir en insistant sur un point qui n'est pas apparu encore dans la discussion, n'hésitez pas.
Oui, c'est l'accompagnement à la mise en œuvre des programmes, parce qu'il y a quand même un changement assez profond. Alors, pas trop pour, pour l'école primaire, parce qu'elle travaillait déjà officiellement en cycle. Mais enfin, il y a le cycle 3 avec la liaison CM2-6e. Il y a l'arrivée d'un travail par cycle au niveau du collège. Cycle 3 pour la 6e, cycle 4. Et dans les... Alors, j'en profite pour dire mon inquiétude dans les thèmes annoncés pour les nouveaux Léa en 2017. Parce que je ne vois aucune préoccupation disciplinaire. Et ça m'interroge au moment où, je fais la transition, se met en place une stratégie mathématique, parce qu'on s'aperçoit qu'en France, les évaluations montrent que l'apprentissage des mathématiques pose problème. Tout à l'heure, tu as parlé de la langue. Vous avez tous les deux parlé de la langue et du français. Ça me semble quand même des points importants qu'il faudrait traiter. Voilà. Donc, c'est l'accompagnement des programmes.
Alors, c'est en effet une question critique. Pour le moment, le ministère, si j'ai bien compris, a mis en place une commission pour suivre la mise en œuvre des programmes. À l'époque où je m'occupais de la stratégie mathématique dans la commission française de l'enseignement des mathématiques, on avait demandé à ce qu'il y ait cette mise en œuvre des programmes soit suivie à partir de ce qui se passait vraiment dans un échantillon de collège. On nous a répondu que les enseignants seraient consultés pour venir témoigner dans ces commissions, dans cette commission nationale. Bon, il nous semble que si on veut vraiment suivre la mise en œuvre de quelque chose de nouveau, on ne va pas solliciter de temps en temps des enseignants, mais il faut suivre au plus près, sur la base d'équipes mobilisées, comment ça se passe vraiment. Et ça, les Léa ou d'autres établissements sont bien placés pour le faire. Et c'est sûr qu'il y a des aspects disciplinaires qu'il faut prendre en compte, des aspects interdisciplinaires. Avec Sophie, on a déposé un projet qu'on va mettre en œuvre, bien qu'il n'ait pas été retenu par l'Institut Carnot, qui est soutenu par la DGESCO. Le projet PREMAT, c'est penser les ressources de l'enseignement des mathématiques dans un temps de transition, à la fois la transition des nouveaux programmes, mais aussi les transitions numériques, enfin, un ensemble de transitions qui font que la discipline, les façons d'apprendre et de faire apprendre changent profondément. Et on va le mettre en œuvre en mobilisant deux collèges, des écoles primaires associées, pour voir sur une durée moyenne, disons 2 ans pour le moment, les problèmes que ça pose. Il nous semble que le ministère serait bien inspiré de regarder ce qui se passe dans les LIA, parce que là, il y a un avantage majeur pour suivre la mise en œuvre d'une réforme et qui ressort bien de ce que vous avez fait. On ne regarde pas simplement ce qui est mis en œuvre auprès d'enseignants qui attendent ou qui mènent une vie, je dirais, ordinaire. Mais dans les LIA, on peut voir ce qui se passe comme mise en œuvre dans un milieu déjà fortement actif qui a déjà pensé un certain nombre de conditions nécessaires pour le changement. Donc ça donne, il me semble, des ressources pour qui veut observer ce qui se passe. Est-ce que les nouveaux programmes permettent de répondre aux questions que les gens se posaient déjà? Est-ce qu'ils prennent en compte les ressources qui sont développées déjà? Et quelles sont les ressources manquantes? Ça, on dispose d'observatoires qui sont tout à fait précieux. Alors, l'IFE, autour de l'IFE, on va essayer de le faire avec nos propres moyens, dans le projet PREMAT, ce que vous faites à Marseille en mathématiques et dans d'autres domaines. Mais c'est certainement quelque chose où la rencontre entre la mobilisation des acteurs et les besoins institutionnels, c'est un endroit et un moment précieux. Alors, on va arriver vers la fin. Ce qui serait bien, on va faire un compte-rendu de l'atelier. Dans le temps de travail que vous avez eu, qui était un temps artificiel, vous avez eu 20 minutes, vous avez marqué des choses. Peut-être que vous avez autre chose que vous avez en tête, que vous aimeriez communiquer. Ce que je vous suggère, c'est de l'envoyer avant, on est quel jour? Mercredi. Avant, disons, la fin de la semaine prochaine, vous l'envoyez soit à Aristide ou Réjeanne, soit à Sophie ou moi, pour qu'on le prenne en compte dans le compte-rendu, qu'on essaie de tirer parti au mieux de votre expérience propre. Voilà, Sophie, le mot de la fin, c'est pour toi.
C'est pour moi. Bah, écoutez, merci.